Chapitre 6 Un ménage brisé. On dirait qu'il existe ici-bas une certaine catégorie d'individus qui n'ont été créés et mis au monde que pour faire le mal, soit en se répandant en intrigues, ayant pour but de s'attaquer à des personnalités honorables entre toutes et aux situations légitimement acquises, soit en cherchant à démolir, à détruire le bonheur des autres, en répandant sur ceux qu'ils ont juré d'avoir, selon la brutale expression de nos arrivistes contemporains, les plus immondes calomnies. Notez que ces tristes individus agissent rarement par eux-mêmes, souvent parce qu'ils n'en ont pas le moyen, plus souvent aussi parce qu'ils n'en ont pas le courage. Ils se font alors les stipendiés de certains individus, généralement assez haut placés, mais qui, encore plus lâches qu'eux, préfèrent rester dans la coulisse. Presque toujours, cette venimeuse collaboration se traduit par une petite feuille soi-disant satirique et littéraire que commandite le personnage mystérieux et que rédige l'homme taré à ses gages. Ce matin-là, c'est-à-dire le lendemain de sa première rencontre avec le comte Zermatt, Marie-Thérèse Guervray, tout en faisant la grasse matinée, parcourait les feuilles du jour lorsque son attention fut attirée par une petite brochure à elle, personnellement adressée, et que la femme de chambre avait déposée dans le plateau avec la correspondance et les autres imprimés. Elle en détacha la bande, se demandant en qui et dans quel but on pouvait lui envoyer un numéro du Martinet, dont jusqu'à ce jour elle avait totalement ignoré l'existence. Et, distraitement, elle se mit à le feuilleter. À la cinquième page, elle s'arrêta. Un article, encadré d'un coup de crayon rouge, venait d'attirer son attention. Elle comprit que si l'expéditeur l'avait entouré de la sorte, c'est qu'il avait le désir que sa prose fût connue de sa destinataire. Et voici ce que la femme de l'artiste lut avec une émotion qui grandissait de ligne en ligne. Un événement bien parisien. Il paraît qu'une nouvelle étoile vient d'apparaître dans notre firmament. Ou plutôt dans celui du Music Hall, et c'est au Moulin Rouge, qu'il faut bien l'appeler par son nom, bien que le directeur de cet établissement Montmartre n'ait jamais daigné nous accorder le moindre cachet de publicité. C'est donc au Moulin Rouge que ce phénomène astral s'est accompli lors de la première représentation de la revue « Que c'est beau Paris ». L'étoile en question n'est autre qu'une jeune bohémienne qui, comme par hasard, est d'un blond tel qu'on ne rencontre que dans les pays anglo-saxons. Elle se fait appeler tout simplement Marquita. Nous avons assisté à ces ébats chorégraphiques, sans partager l'enthousiasme d'une presse qui a de bonnes raisons pour trouver formidable tout ce qui se dit, se fait, se chante ou se danse dans cette maison, nous reconnaissons loyalement que cette Marquita, que l'on avait essayé d'étouffer entre un sketch remarquablement interprété par Moïse et Thomas, les deux célèbres clowns nègres, et un final où la non moins illustre Nonne Marlette avait eu la modestie de nous prévenir dans une de ses interviews familiers qu'elle serait tout simplement prodigieuse, nous a apporté une note nouvelle, originale, telle qu'on n'en avait pas vue depuis longtemps. Aussi a-t-elle retrouvé un succès aussi colossal qu'imprévu, et le manager du Moulin Rouge, qui, paraît-il, ne fondait sur elle aucune espérance, l'a immédiatement engagée à des appointements magnifiques et a donné l'ordre à ses fournisseurs habituels de lui réserver, dans le prochain spectacle, une place prépondérante. Inutile d'ajouter que Nono Manette bisque terriblement. Fort intelligemment, elle n'en laisse rien voir, et comble d'amabilité la bohémienne blonde, qui aurait bien tort de se laisser duper par cette attitude de camaraderie bienveillante. Tout cela, somme toute, ne serait pas extrêmement palpitant si cette historiette n'avait pas les dessous plus étranges et qui promettent de prendre bientôt les proportions d'un joli petit scandale. L'extraordinaire, l'avisé, le subtil, l'artiste inné, le connaisseur raffiné, que prétend se croit être et cherche à le faire croire l'impresario Corbert, maintenant que sa nouvelle pensionnaire a réussi, c'est lui qui l'a découvert, déclare-t-il. Or, il n'en est rien. Cette nouvelle vedette, nous la devons à un jeune artiste, Jacques Gervais, qui a lancé la si curieuse affiche de Donovanette. Le talentueux illustrateur aurait ainsi, que Madame Marquita l'a déclaré à l'un de nos confrères, rencontré dans un petit pays de Bretagne cette délicieuse enfant de Bohême, conquis par son talent instinctif et son charme naturel, il aurait amené à Paris et apporté à s'imposer à ce directeur, le menaçant, s'il n'engageait pas immédiatement, de cesser toute collaboration. Ce qui prouve, ainsi qu'on le chante dans Carmen, que l'amour est enfant de Bohème, qu'il n'a jamais connu de loi. Le génial manager a cédé, et aujourd'hui il s'en félicite. Mais une charmante artiste qui ne pardonne pas à M. Jacques Gervais cette intervention, dont les résultats ne peuvent être que très gênants pour elle, c'est la grande vedette Nonomanette. Il paraît que le lendemain de la première, elle a fait une scène terrible à l'auteur de son effigie. Tu n'es qu'un mufle, lui a-t-elle dit. Tu me dois tout. C'est moi qui t'ai lancé. J'ai encore eu la sottise d'avoir pour toi un béguin qui pouvait très bien se transformer en grand amour. Pourtant, lorsque tu m'as annoncé que tu voulais te marier avec une jeune bourgeoise riche avant tout, je n'ai vu que ton intérêt, je ne me suis pas cramponné, je ne t'ai adressé aucun reproche. Je t'ai même fait cadeau d'une épingle de cravate que tu n'as d'ailleurs jamais portée. Et malgré cela, je suis resté pour toi une bonne camarade. Et voilà qu'à présent, tu me flanques dans les pattes une petite bonne femme que tu as ramassée sur une grande route ou ailleurs. Vraiment, tu dépasses la mesure. Si cela t'amuse de tromper ta femme avec des galles qu'on ne devrait qu'à ramasser qu'avec une pincette, c'est ton affaire. Mais moi, je ne supporterai pas que tu t'attaques à ma situation. Ou alors, moi, je me charge de démolir la tienne et ce ne sera pas long. En attendant, je t'engage, lorsque tu iras déjeuner ou dîner dans un restaurant avec ta poupée de linge sale, de parler un peu moins fort et surtout de ne pas raconter à qui veut l'entendre que lors de la prochaine revue, le nom de Marquita sera imprimé sur l'affiche en caractère aussi gros que le mien. Le rédacteur anonyme, bien entendu, de ce papier venimeux, concluait en ces termes: Nous continuerons à rendre un compte entre tous impartial du match qui vient de s'engager entre Nonomanette et Jacques Gervais. Il s'annonce des plus mouvementés, et j'ajoute qu'il serait d'un comique intense si malheureusement il ne comportait pas, ainsi que toutes les pièces bien charpentées qui ont fait la fortune du théâtre pendant de si nombreuses années, une innocente victime vers laquelle, inutile de le dire, s'en vont toutes nos respectueuses sympathies et nos sincères condoléances. Espérons que la petite bourgeoise riche montrera du cran et qu'elle ne tardera pas à prendre une éclatante revanche sur sa bohémienne blonde. La lecture terminée et le premier mouvement de Marie-Thérèse fut de se lever, de passer un peignoir, de monter à l'atelier où travaillait son mari, et d'avoir avec lui l'explication aussi nette que décisive. Mais elle se contint et se prit à réfléchir. Depuis la veille, elle avait beaucoup réalisé. Bien que le comte Zermatt l'eût déjà marqué de cette emprise qui le rendait si redoutable aux femmes, dont l'absence de toute volonté, autant que le manque de sens moral, en faisait pour lui des proies vaincues d'avance, en route elle s'était ressaisie, car au fond, malgré ses allures évaporées, sa soif inextinguible de plaisir et cet impérieux besoin de mouvement qualifié de bougeotte, Marie-Thérèse était en réalité une brave petite femme qui, si elle ne se fût pas laissée à moitié ensnobiser, eût fait une parfaite épouse. Somme toute, qu'avait-elle à reprocher à son mari? De la délaisser pour son art, pour son travail? Ne devait-elle pas en estimer davantage, puisqu'elle savait fort bien que c'était afin de lui rendre la vie plus large, plus agréable, et d'apporter dans le ménage une part non pas égale, mais sensiblement supérieure à la sienne, qu'il renonçait à la joie de l'accompagner partout où sa fantaisie la conduisait. N'était-ce pas déjà de sa part un réel et sans doute très pénible sacrifice de lui laisser une liberté dont elle n'avait jamais profité pour donner suite aux aventures que lui offraient ses nombreux soupirants? Aussi, elle se disait-elle, bon, je ne pourrais jamais le tromper. Et elle se reprochait même de le quitter trop souvent. Et elle se promettait qu'à l'avenir, elle se montrerait plus sérieuse, qu'elle ferait davantage chez elle, qu'elle s'occuperait mieux de lui. Lorsqu'elle rentra chez elle, la tentation que le Don Juan des grands bars lui avait un moment inspirée s'était dissipée. Et comme si, après ce contact dont elle avait subi la morbidité dangereuse, elle voulait vite prendre un bain d'honnêteté, avant d'enlever son chapeau et son manteau, elle courut aussitôt jusqu'à l'atelier de Jacques. Celui-ci, en la voyant apparaître, rieuse, aimable, avec tout plein de tendresse dans le sourire et dans le regard, abandonna son travail pour s'élancer vers elle et la prendre dans ses bras. « Oh, je ne t'attendais pas si tôt !» fit-il à la courant de baisers. « Mon Jacques, » fit-elle, « je suis tellement ennuyée que, dès que je l'ai pu, j'ai faussé compagnie aux invités des Darmelles. » « Mais tu as bien fait, » fit-il, « et tu ne peux te figurer combien cette surprise m'est agréable. »« Bon, il ne faut pas que je t'empêche de travailler. » « Non, j'avais fini. »« Qu'est-ce que tu faisais ?»« La maquette de l'affiche que le directeur du Moulin Rouge m'a commandée pour le Marquita. Tiens, regarde !» Et, désignant à sa femme le chevalet contre lequel s'appuyait le carton blanc sur lequel il avait réalisé le portrait de la bohémienne, Marie-Thérèse eut ce cri « Mais c'est un chef-d'œuvre !» « Je crois, en effet, que ce n'est pas trop mal, » reconnaissait l'artiste, qui était excipient rare, semblait satisfait de son travail. Madame Guervais avait raison, c'était un chef-d'œuvre. C'était un être vivant qui était là, avec tout son charme mystérieux, toute sa beauté fascinante, ses yeux superbes et cette auréole blonde de cheveux dans lesquels on sentait frémir une brise légère qui ajoutait encore à l'illusion de la réalité. « Ce qu'il y a d'extraordinaire, » s'écriait Marie-Thérèse, « c'est que tu aies réalisé cela aussi rapidement. »« Non, ce n'est qu'une première esquisse, » répliquait Jacques. Et il ajouta, « Et puis, tu sais, quand un sujet vous inspire... » Il se tut, craignant d'avoir prononcé une parole imprudente et que sa femme, qu'il adorait par-dessus tout, ne se méprît sur la nature des sentiments que lui inspirait Marquita. Mais vite, il se rassura. Marie-Thérèse continuait à admirer le projet d'affiche. Puis elle fit, avec un calme qui montrait qu'il y avait en elle aucun soupçon, aucune crainte. Le fait est que cette petite est très intéressante. Guervais revenait vers sa femme et lui disait « Veux-tu que nous allions ce soir au Moulin Rouge voir un peu l'effet qu'elle produit sur le public? Je veux bien, accepta la jeune femme, mais elle se tut. Jacques reprit. Ah, peut-être avais-tu un autre projet? Oui, avec une expression d'amertume qu'elle s'efforçait en vain de dissimuler. L'artiste émettait. Oh, sans doute as-tu promis à des amis de sortir avec eux. Non, souriait Marie-Thérèse. Non, non, j'avais voulu que nous passions cette soirée ensemble, ici, dans cet atelier. Je t'aurais fait un peu de musique. Oh, rassure-toi, pas de Charleston, car je ne veux plus te taquiner. Je t'aurais joué du Bach, du Beethoven, du Mozart, de ce que tu aimes, enfin. Mais si tu tiens absolument à ce que nous allions au Moulin Rouge, c'est entendu. Tout étonné, le dessinateur déclarait. Mais j'avais besoin de vérifier certains détails du costume Marquita, mais ça ne presse pas autrement. Demain, il y a une matinée, j'irai. Cela ne te contrarie pas. Mais je suis trop heureux, au contraire, de te prouver combien je tiens à ta présence. Et tout en l'attirant contre lui, il fit. Notre intimité m'est si douce. Gravement, la jeune femme exprimait. Jacques, je reconnais que j'ai eu de grands torts envers toi. Mais non. Si, je n'avais pas su dominer ma légèreté, ma coquetterie, ni surtout comprendre combien un homme de ta valeur a besoin d'avoir près de lui une associée, non pas une poupée mondaine telle que j'étais. Et aujourd'hui, j'ai réagi tout à coup. Je me suis dit, pendant que je m'amuse, ou plutôt que je fais semblant de m'amuser, lui travaille. Pour moi encore plus que pour lui, il se sacrifie. Et ce soir, lorsque je rentrerai, malgré toute la tristesse qu'aura mise en lui mon absence, ce soir il aura assez de force sur lui-même pour me cacher ses angoisses et me recevoir avec le sourire d'un homme heureux. Eh bien non, je n'ai pas le droit de me montrer aussi cruelle envers lui. Je veux redevenir l'amoureuse que j'étais. Je veux être la compagne qu'il mérite. Serre-moi bien dans tes bras, mon chéri. Oui, j'ai été une sotte, une folle, une enfant gâtée, mal élevée, à laquelle des parents trop faibles ou simplement égoïstes ont laissé trop de liberté et sans l'appui d'aucun conseil. Mais regarde-moi bien dans les yeux et laisse-moi te dire, te jurer que jamais, tu m'entends, jamais, je n'ai même eu l'intention de te tromper. Si parfois j'ai écouté, oh, je ne le dis pas avec complaisance, mais avec une certaine joie orgueilleuse, les compliments des autres hommes, il n'en est pas un seul qui puisse se vanter d'avoir reçu de moi le moindre encouragement. Embrasse-moi donc, mon Jacques, sur mes lèvres. Elles n'ont jamais connu et ne connaîtront jamais d'autre baiser que le tien. Je suis à toi, je t'aime. Jamais encore le jeune artiste n'avait connu pareille ivresse. Il avait l'impression de vivre un rêve. Et sans chercher à s'expliquer le brusque revirement qu'il irradiait de la plus sublime des allégresses, il entourait d'une étreinte splendide le corps souple, ardent, qu'il sentait frémir contre le sien. Il ne se doutait pas qu'en agissant de la sorte, Marie-Thérèse, qui, malgré ses défauts, était d'une droiture naturelle qui la faisait s'indigner devant une trahison possible, cherchait en ce moment à échapper à la tentation qui l'avait troublée dès sa première entrevue avec Willy Zermatt. Sentant très bien qu'elle risquait de succomber, elle s'efforçait de rendre plus agréablement possible le devoir auquel elle se raccrochait. Elle voulait trouver Jacques plus beau que l'autre. Elle cherchait à ajouter à l'auréole de son talent celui d'avantage physique qui l'eussent fait rayonner en elle au-dessus de tous. Elle s'offrait à ses caresses qu'elle lui rendait avec un emportement que jusqu'alors elle n'avait jamais connu. Aigrisée, étourdie, elle ferma les yeux. Et voilà que, soudain, elle eut l'étrange hallucination. Elle crut que c'était Willy Zermatt qui l'étreignait, que c'était sa bouche qui brûlait la sienne, que c'était lui qui s'emparait de son âme, de son cerveau, de ses sens, de tout elle. Et brisée de honte, comme si elle venait de consommer l'adultère, contre lequel si courageusement elle cherchait à se défendre, elle demeura étourdie, se cachant la tête avec ses bras croisés sur le divan où Jacques l'avait entraînée. Lorsqu'elle se ressaisit, elle comprit qu'elle n'avait pas remporté sur elle-même la victoire qu'elle voulait, mais plutôt une défaite qui lui prouvait combien plus que jamais elle devait se tenir sur ses gardes. Mais elle n'en fut pas découragée. C'était la lutte, eh bien, elle lutterait jusqu'au triomphe. Et la douceur, la bonté, l'amour que lui témoignait Jacques pendant toute cette scène lui firent croire, en l'illuminant de ses propres sentiments, qu'elle était déjà presque victorieuse. Et voilà que, le lendemain matin, elle apprenait, par un entrefilet de cette feuille immonde qui s'appelait le Martinet, que Jacques était l'amant de Marquita. Tout d'abord, ainsi que nous l'avons vu, cette révélation produisit en elle un mouvement de subite colère. Puis elle réfléchit. « Il n'est pas possible que ce soit vrai !» Hier soir, j'ai trop bien compris à quel point Jacques était à moi pour que ce racontard ne soit pas un mensonge. Peut-être veut-on le faire chanter. Malgré tout, un malaise subsistait dans l'esprit de la jeune femme. Elle se rappelait avoir lu récemment un roman d'un jeune auteur qui soutenait la thèse que l'homme était né polygame et qu'il pouvait très bien aimer une, deux et même plusieurs femmes à la fois. Mais elle ne s'attacha pas à cette idée beaucoup plus faite pour aspirer la verve d'un vaudevilliste que le cerveau d'un psychologue. Elle songea que le moment où Jacques avait fait la connaissance de la petite bohémienne correspondait exactement à celui où elle l'avait quitté pour se rendre à Deauville dans sa famille. Elle se dit également que, si un grand fait l'amour qu'elle avait inspiré à son mari, celui-ci était à un âge où certaines exigences physiques, au moins autant que certains découragements moraux, invitent à la tromperie les amants les plus fidèles. Elle se rappela qu'à cette même époque, elle avait ressenti certains troubles qu'elle avait réussi à surmonter, mais non sans peine. Pourquoi, après tout, Jacques, après avoir eu un béguin uniquement artistique pour cette Marquita, n'aurait-il pas poussé plus loin l'aventure? Elle était très séduisante, cette bohémienne blonde. Elle pouvait devenir, et peut-être était-elle même déjà, une rivale dangereuse. N'avait-elle pas sur elle l'avantage d'une originalité puissante et le prestige éclatant d'une vedette sensationnelle? N'était-ce pas Jacques qui l'avait lancée? Et n'était-il pas logique que, pour la ramener remerciée, Marquita ne lui offrit le plus beau cadeau dont elle disposait? Elle? De nouveau, elle fut tentée d'avoir avec son mari une explication décisive. Mais elle se dit, à quoi bon? S'il est coupable, il niera éperdument. Il me jurera, ses grands dieux, qu'il est l'objet d'un grossier chantage, ou la victime des bons petits camarades qui ne lui pardonnent pas d'être arrivés avant eux. Mieux valait dissimuler, s'informer discrètement, avoir une certitude. Si c'était une calomnie, elle n'aurait qu'à l'oublier. Si c'était la vérité, eh bien, elle verrait. Mais cette dernière hypothèse, bien que loyalement elle s'efforça de la combattre, occupa beaucoup plus son esprit que la première. À mesure qu'elle en était hantée, elle se reprenait à penser à Willy Zermatt, à évoquer son image, à se rappeler ses paroles. Cette fois, ce n'était plus de l'ascendant direct, mais une sorte d'envoûtement à distance qu'exerçait sur elle le redoutable séducteur. Pour échapper au désarroi qui s'était emparé d'elle, Marie-Thérèse se leva. Elle s'en fut caché l'exemplaire du martinet dans le tiroir d'un petit meuble, dit bonheur du jour, que jamais n'ouvrait son mari. Puis, tout en procédant à sa toilette, elle se prit à songer aux moyens d'information dont elle allait user, afin de s'assurer si son mari était ou n'était pas l'amant de Marquita. Elle avait souvent remarqué, sans y prêter grande attention d'ailleurs, la publicité assez importante que font dans les grands journaux les détectives privés, dont quelques-uns ont acquis une réputation d'ailleurs justifiée. Après s'être habillée, elle s'empara d'un grand journal d'information. Elle examina aussitôt les annonces. Elles contenaient plusieurs adresses de détectives connus. Mais un placard l'intéressa particulièrement. Il était ainsi rédigé. Si vous voulez être exactement renseigné sur tout ce que vous désirez savoir, si vous voulez connaître par avance les joies et les douleurs que l'avenir vous réserve, si vous voulez être au courant des moindres actions de vos intimes, si vous voulez être fixé sur la sincérité de vos amis et les projets de vos adversaires, adressez-vous au moderne Cagliostro, qui par des procédés uniquement scientifiques et dont l'exactitude est confirmée par des milliers d'expériences, vous révélera à la fois le présent, le passé et l'avenir. Consultation uniquement sur rendez-vous. Paris, 28 avenue du Ranelagh, 28. Ne pas téléphoner, écrire. Marie-Thérèse n'était pas une de ces femmes crédules, comme on en rencontre même et surtout, peut-être, dans les hautes classes de la société, et qui sont les habituées assidues des voyantes et tireuses de cartes qui pullulent dans notre capitale. Il est même certain que si elle se fût trouvée dans un état d'esprit normal, elle n'aurait pas eu un seul instant l'idée d'attacher la moindre importance à cette réclame, fort adroite d'ailleurs, et qui devait produire un gros effet sur toutes celles et aussi tous ceux sur lesquels les sciences occultes exercent un mystérieux attrait. Mais elle traversait d'une crise morale trop aiguë pour conserver intact son bon sens. Et elle se dit, pourquoi, après tout, ne consulterais-je pas ce Cagliostro? Qu'est-ce que je risque? Quelques billets de 100 francs. Si je suis dupe, la mystification ne sera véritablement pas bien coûteuse. Et qui sait d'ailleurs si vraiment, ainsi qu'il le prétend, cet homme est doué du don de double vue. Ne vaut-il pas mieux m'adresser à lui plutôt qu'à un détective qui sera obligé de se livrer à des enquêtes, à des filatures qui dureront beaucoup de temps? Et moi, je ne veux pas demeurer dans une pareille incertitude. Il sera bien temps, si ce Cagliostro est un farceur, de m'adresser à un vrai policier. Elle se préparait à écrire au moderne sorcier lorsque son mari apparut. Il était très pâle et ses traits contractés laissaient deviner une colère qu'il avait peine à contenir. Lis cela, fit-il à sa femme en lui tendant une brochure qu'il tenait à la main. Le martinet, fit la jeune femme en s'en emparant. Puis, tout en s'efforçant de garder tout son calme, elle ajouta: Oui, je suis au courant. Comment cela? Un généreux anonyme a déjà eu la délicate intention de m'en faire parvenir un numéro. Alors, tu as lu? Oui, j'ai lu. Mais pourquoi n'as-tu pas monté tout de suite m'en parler? Parce que je n'ai pas jugé indispensable de provoquer entre nous deux une explication que j'estime, Marie-Thérèse allait dire prématurée, mais elle se reprit, que j'estime inutile. Oh, je suis heureux que tu n'aies pas attaché la moindre importance à cette ignominie. Le mieux, concluait Madame Gervais, que cette conversation gênait, et de ne plus en parler. Oh, je ne suis pas de cet avis, reprenait le jeune artiste. Aussi ai-je prié deux de mes amis de se rendre auprès du directeur de cette feuille de chantage. Tu ne vas pas te battre en duel. Non, des fripouilles de cette espèce ne relèvent que du bâton ou de la police correctionnelle. Non, j'exige simplement que dans son prochain numéro du Martinet, il soit inséré un démenti formel à cet écho calomnieux, dont d'ailleurs je crois connaître la source. Moi, déclarait Marie-Thérèse, je suis d'avis de laisser tout cela tranquille. Moi, affirmait Jacques avec force, je ne veux pas laisser prendre corps à une calomnie et une légende odieuse. Mais que t'importe, puisque je la considère comme fausse? Il me semble que je suis dans cette affaire la première intéressée. Certes, mais permets-moi de m'étonner que tu n'éprouves pas plus que de l'ennui, mais de la peine de voir notre vie attaquée dans ce qu'elle a de plus intime, de plus précieux et de plus sacré. Rappelle-toi le vieux proverbe arabe. Les chiens aboient, la caravane passe. Mais cette fois, les chiens font mieux qu'aboyer, ils mordent. Oui, mais leurs morsures ne sont pas bien dangereuses. Mais je ne puis cependant pas, s'énervait Jacques, laisser passer sans les démentir et sans les relever d'aussi lâches calomnies. Mais tu vas donner à ces gens-là une importance qu'ils n'ont pas. Dis plutôt une leçon qui les musellera à tout jamais. Je trouve le mépris beaucoup plus digne. Mais songe que nous ne sommes pas seuls en cause. Il y a aussi cette jeune fille. Quelle jeune fille? Marquita. Mon chéri, déclarait Madame Gervais avec un accent de reproche dans lequel n'entrait aucune amertume, du moins apparente, tu vas pas te fâcher. Mais franchement, permets-moi de te dire que tu exagères. Comment cela? En te posant défenseur de la vertu de cette bohémienne, tu ne mettras pas précisément les rieurs de ton côté. Mais Marquita est une très honnête fille, scandait énergiquement le jeune artiste. Comme je n'ai pas la preuve du contraire, ripostait Marie-Thérèse sur un ton un peu dédaigneux, mais je crois qu'il te sera très difficile de faire admettre qu'une jeune personne de 20 ans, qui a passé sa vie parmi des nomades et conservé l'intégrale pureté que l'on exigeait autrefois des vestales. Alors, Marie-Thérèse, je t'en prie, ne plaisante pas sur cette petite. Mais je m'en garderai bien, affirmait Madame Gervais, non sans une certaine ironie, car je t'assure qu'elle n'occupe pas de mon existence, et j'espère qu'il en est de même dans la tienne, une place assez considérable que je me fasse à son sujet le moindre souci. Jacques, de plus en plus nerveux, grommelait. Extraordinaire. Quoi? Questionnait la jeune femme sans se départir de son sang-froid. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Bon, on dirait que tu n'es pas sûr de moi. Bon, je me demande qui a pu te donner une pareille idée. Le dessinateur répliquait. Non, j'estime qu'il ne doit pas y avoir de malentendu entre nous. Aussi, je ne le cacherai pas combien je viens d'être surpris et peiné en t'entendant me dire, en parlant de Marquita, elle n'occupe pas de mon existence une place assez considérable et j'espère qu'il en est de même dans la tienne. Ah, je dis cela? Textuellement. C'est possible, admettait Marie-Thérèse. Parfois, les paroles dépassent la pensée. La preuve, c'est que je ne m'en souviens déjà plus. Et crois bien que je suis au regret si je t'ai causé de la peine. Ah, je préfère t'entendre me parler ainsi. Allez, à tout à l'heure, Marie-Thérèse, je remonte travailler. C'est cela, va, mon petit. Ils se séparèrent. Madame Guervé remarqua que son mari ne l'avait pas embrassée, comme il en avait toujours l'habitude à la fin des rares et toujours légères discussions qui s'élevaient entre eux. Cette attitude ne fit que grandir le soupçon qui était en elle. Et, demeurée seule, elle se dit: tout à l'heure, je croyais à une passade. À présent, j'en suis sûre. Il est l'amant de cette fille. Et elle ajouta, en poussant d'un profond soupir: Mon ménage est brisé. Dieu m'est témoin que j'aurais tout fait pour éviter une pareille cassure. Une sonnerie de téléphone vibrait. Marie-Thérèse prit le récepteur et écouta. Une voix grave et masculine lançait: Allô, Madame Guervé? C'est moi, monsieur. Non, pas monsieur. Madame Artigot. Oh, excusez-moi, madame, s'écriait Marie-Thérèse. Je n'avais pas reconnu votre voix. Oui, j'ai pris la mauvaise habitude de crier quand je téléphone. En deux mots, voici. J'ai un service à vous demander. Je ne peux pas vous dire quoi, mais rassurez-vous. Cela, je l'espère du moins, ne peut que vous être agréable. Oh, vous êtes vraiment très gentille. Vous m'avez tout de suite été très sympathique. J'en suis très flatté, car je sais que vous êtes très sévère dans le choix de vos relations. À Paris, il faut toujours être sur le qui-vive. Allô, vous m'entendez bien? Oui, très bien, madame. J'aurais voulu me rendre aujourd'hui chez vous, mais je suis tellement prise. Si vous pouviez venir demain vers 5 heures à la maison prendre une tasse de thé, j'en serais ravi. Mais j'accepte avec grand plaisir, chère madame. Je vous attends donc. Comptez sur moi. Ah, ça, se demandait Marie-Thérèse en raccrochant l'appareil. Quel service suis-je capable de rendre à madame Artigot? Elle réfléchit un instant, puis, se sentant incapable de déchiffrer cette énigme dont la solution, d'ailleurs, n'allait pas s'en faire attendre bien longtemps, elle se rappela tout à coup qu'elle avait décidé d'écrire à Cagliostro. Et vite, elle traça ces mots sur un petit bleu. Monsieur, je viens vous demander de bien vouloir me recevoir le plus tôt possible, car j'ai absolument besoin de renseignements que seul vous pouvez me donner. Recevez, monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués, Marie-Thérèse Guervé. Vite, elle envoya sa femme de chambre jeter la missive dans la boîte du bureau de poste le plus rapproché. La réponse ne se fit pas attendre. Vers 5 heures de l'après-midi, elle recevait un coup de téléphone, la prévenant que M. Cagliostro, bien qu'il fût très pris en ce moment, l'attendait chez lui le lendemain à 2 heures de l'après-midi, à son hôtel particulier, 22 rue du Ranelagh. La voix ajoutait que Madame Guervé était priée de se munir d'un objet appartenant à son mari et d'une lettre de ce dernier. Enchantée d'avoir reçu satisfaction aussi rapidement, Marie-Thérèse se promit d'être exacte au rendez-vous. Si cet homme n'était pas le plus vil des charlatans, si au contraire il était, ainsi qu'il le prétendait, un véritable savant, doué d'un don spécial de double vue, le lendemain elle serait fixée. Alors, si, comme elle en était déjà convaincue, Marquita était la maîtresse de son mari, eh bien, s'il voulait d'elle, le comte Zermatt deviendrait son amant.